Bonjour, bonjour et bienvenue, évidemment, dans Du Poil Sous les Bras, une émission qui, mine de rien, aide à comprendre le monde. Et dans le monde, aujourd'hui, on parle d'écologie. Alors on en parle un peu, beaucoup, pas du tout, mais aussi mal. Et oui, certains parlent mal d'écologie. Et c'est cela qui va m'intéresser dans cette émission, faire le point sur ceux qui parlent très mal de l'écologie, ceux qui s'attaquent aux écolos. Pourquoi font-ils cela? Est-ce que ça nous apporte quelque chose d'analyser ce contre-feu anti-écolo très présent médiatiquement et politiquement? Ben oui, je crois qu'il faut connaître l'ennemi, le nommer, comprendre ses motivations pour pouvoir le combattre, bien sûr, parce que on n'a qu'une terre et qu'on aimerait bien qu'elle soit un peu mieux vivable pour tous les êtres vivants. Alors pour papoter, aujourd'hui, j'ai choisi quelqu'une qui ne veut pas la peau de l'écologie. Voyons qui sont les gens comme elle.
Ben, les gens comme moi, ils ont chacun à leur manière fait un pas de côté, ou pour utiliser un terme plus fort encore, une forme de bifurcation, parce que la question écologique aujourd'hui, par son importance, par son urgence, parce que ça les a pris finalement comme quelque chose de complètement existentiel dans leur vie, les a conduits à changer assez profondément. Et moi, c'est à la fois présent dans ma vie personnelle, dans ma vie d'engagement citoyenne, comme n'importe qui, depuis, disons, que je suis sortie de l'adolescence. Et ce qui est un peu particulier, c'est que ça m'a conduit à bifurquer du point de vue professionnel en termes de champ de recherche et même de modalités d'implication de ce qu'est être une enseignante-chercheuse dans cette société et la façon dont elle peut se saisir de cette question pour accompagner le débat social à ce sujet, alors qu'initialement, c'était pas mon domaine de recherche spécifique. C'était un domaine d'engagement privé, d'engagement dans mes combats personnels. Et j'ai pu faire cette bifurcation depuis plus d'une dizaine d'années en considérant que c'était tellement important que ce n'était pas logique que ça n'occupe pas aussi ma sphère professionnelle. Et donc, des gens comme moi qui font ce genre de bifurcation, de manière très différente, je pense qu'en fait, il y en a plein. C'est un flux discret, mais c'est bien là.
C'est bien là, nous dit-elle. Oui, c'est là. C'est important de le dire, hein, d'insister là-dessus à l'heure où une grande partie des médias distille l'idée que les gens s'en foutent un peu de l'écologie et sont plus préoccupés par l'arrivée des migrants. Eh bien non, pas sûr. Sans bruit, chacun, chacune à sa façon, nous sommes nombreux, nombreuses à être préoccupés et à avoir bifurqué, ou être en passe de le faire. Peut-être qu'en écoutant cette émission, vous allez vous aussi vous dire « Allez, c'est le moment, je bifurque. Je bifurque parce qu'on vit justement un moment de bascule historique et qu'après, après, ce sera trop tard. »
Bonjour, je m'appelle Laure Tellière et je suis maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l'université Toulouse-Jean Jaurès. Donc, je suis rattachée au laboratoire Framespa, qui est un laboratoire CNRS d'historiens et d'historiennes ici dans cette université. Et ce qui nous intéresse sans doute en faisant cette émission, c'est que je travaille en gros sur la question écologique.
Et oui, ce qui m'a intéressée chez Laure Tellière, ce sont ses connaissances dans le domaine de l'histoire, de l'écologie et de l'histoire environnementale. Et son idée, surtout, de produire un ouvrage sur les attaques que subit l'écologie, pour le dire vite. Laure Tellière a coordonné un livre avec Steve Agimont et Jean-Michel Huppé, un livre intitulé « Green Backlash », paru aux éditions du Seuil. Alors, Green Backlash, ça ne signifie peut-être rien pour vous. Mais il y a un sous-titre plus parlant, « Qui veut la peau de l'écologie ?» Alors la question peut surprendre, pourquoi quelqu'un voudrait-il la peau de l'écologie? A priori, être écolo, c'est vouloir un monde plus agréable pour tout le monde. Humains, animaux, végétaux, nous sommes tous interconnectés, et ça paraît logique, en tout cas pour moi, de vouloir défendre le vivant. Tout le vivant et tous les vivants. Eh ben non, figurez-vous, certains ont des intérêts différents parce qu'ils ont peut-être suffisamment d'argent pour se mettre provisoirement à l'abri des conséquences du changement climatique et suffisamment d'argent pour manger sainement et vivre dans une zone non polluée par exemple, et puis qu'ils préfèrent leur petit profit personnel très court terme au bien-être collectif. De fait, en France, et ailleurs aussi, les attaques contre les écolos et l'écologie sont de plus en plus violentes. À coups de mensonges, de lobbies, de lois, de menaces, tous les moyens sont bons pour discréditer l'écologie. Pourtant, comme le disait l'hortelière en introduction, nous sommes ici face à une question existentielle. Ce n'est pas un gros mot de le dire. Ça signifie que notre existence dépend du chemin qu'on choisit. Et non, nous ne sommes pas obligés de choisir de continuer à marcher sur le chemin qui mène à notre perte. On peut bifurquer, prenons des chemins de traverse dans du poil sous les bras.
La petite blanche dans du poil sous les bras.
Backlash, comme expliqué dans le livre, le terme vient de combats féministes. Ce sont les vents contraires et les stratégies offensives pour blâmer les victimes plutôt que de s'attaquer aux rapports de domination. On inverse la charge, on retourne la réalité. Et le green backlash, c'est la riposte réactionnaire anti-écologique. S'attaquer aux écolos pour protéger les responsables des multiples crises. Et le but du livre Green Backlash, c'est de rendre visible cette guerre contre l'écologie, parce que oui, c'est une guerre. Et si on la perd, eh bien cela marquera, je cite, une défaite globale de l'humanité dans le chaos, l'impérialisme, la violence et le racisme. Pourquoi avoir eu envie de s'emparer de ce sujet, l'hortelière ?
Parce que en fait, je sentais grandir cette thématique de l'anti-écologisme, d'un backlash, donc quel que soit le sens qu'on donne à ce mot, mais nous on l'a retenu comme un mot au chapeau. C'est pas forcément un concept très 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 élaboré. C'est un mot qui permet de rassembler pas mal d'analyses en fait sur à la fois des processus en cours, des procédés, des acteurs, des attaques, des recadrages langagiers autour de l'enjeu écologique. Et donc, ça nous paraissait important d'y revenir. Alors, immédiatement, quand Christophe a dit que oui, ça pouvait être intéressant, je me suis trouvé des acolytes. Et donc, j'ai demandé à Steve Agimon et Jean-Michel Huppé de coordonner avec moi. Donc, on a coordonné cet ouvrage tous les trois. En fait, il se trouve qu'on est par ailleurs tous les trois les cofondateurs de l'atelier d'écologie politique, la TECOPOL, sur lequel on reviendra peut-être, mais qui est le collectif scientifique qui a été creusé pour cet ouvrage. Même si la plupart des auteurs, en fait, il y a près de 35 auteurs dans cet ouvrage, sont plutôt des scientifiques qui ne sont pas de notre Atécopole toulousain, qui sont d'ailleurs en France et à l'étranger aussi, qui ont accepté, quand on les a contactés, parce qu'on connaissait leur domaine de spécialité, et on les a contactés un par un pour leur proposer de travailler sur ce bouquin, sur un chapitre, souvent à plusieurs d'ailleurs, c'est souvent des coécritures, y compris entre des gens qui se connaissaient pas pour certains, mais à qui on a proposé de travailler ensemble. C'est quelque chose qu'on aime bien faire à la TECOPOL, puisque ça produit des rencontres fructueuses, puis ça décale un petit peu chacun par rapport à son cœur de spécialité, ça met déjà une réflexion interne supplémentaire dans la phase de préparation du bouquin. Tout ça pour dire que voilà, la genèse du bouquin, c'est celle-là, c'est cette idée initiale que ce sujet-là, il était montant et hélas, il était face à nous, qu'il fallait le traiter et proposer un bouquin de pénétration du débat public, potentiellement. Parce que nous, ce qui nous intéresse avec ce bouquin, c'est pas de constituer un savoir académique pour lui-même, mais c'est d'avoir un outil dont les médias peuvent se saisir, qui peut amener à aller faire des podcasts, des émissions, répondre à des sollicitations, être véhiculé sous forme de conférences publiques, etc., pour en fait améliorer le débat public sur ces questions, sur l'enjeu écologique, là en l'occurrence, en comprenant pourquoi ces attaques, le sous-titre proposé par Le Seuil, c'est « Qui veut la peau de l'écologie ?» Donc il s'agit bien de cerner pourquoi aujourd'hui il y a à la fois plein de régressions dans le domaine de l'écologie, des régulations environnementales qui sont détricotées, parfois de manière un peu invisible, mais avec des effets très importants. Pourquoi il y a des attaques en termes de discours très fortes, parfois, assez violentes, du dénigrement. Pourquoi aussi il y a des groupes d'intérêts, des lobbies, des acteurs sociaux, etc., qui ont intérêt à amoindrir la compréhension de l'enjeu écologique et à dénigrer ceux qui s'en occupent. Oh.
pourquoi certains veulent la peau de l'écologie. Ce n'est pas une figure de style de dire ça. En Amérique latine, par exemple, les défenseurs de l'environnement sont carrément tués. Dans Green Backlash, un article concerne particulièrement ce lien, ce continuum entre dictature, néolibéralisme et destruction massive de la nature et des peuples autochtones. Reprenant les mots d'Eliane Brum, une journaliste brésilienne, les auteurs expliquent qu'il existe une relation phallique des généraux au pouvoir qui veulent vaincre l'enfer vert. Domination sur la nature et masculinité toxique font toujours bon ménage. Une masculinité toxique qui imprègne aussi très largement le pouvoir en France. Il n'y a qu'à voir Macron montrer ses petits muscles photoshopés ou faire sortir quelques poils virils de sa chemise pour se rendre compte de l'avancement de la toxine masculiniste. Et si seule la mort de Rémi Fraisse, militant contre le barrage de Sivens, est à déplorer dernièrement en France, on ne compte plus les militants et les militantes écolos blessés, mutilés, traumatisés, gardés à vue ou simplement empêchés d'agir. Dans Green Backlash, il y a la volonté de documenter, d'expliquer pourquoi les politiques se sont mis à autant détester les écolos, en tout cas certains politiques, et comment cette haine de l'écologie est mise en place, comment elle est structurellement produite. Et pour cela, il fallait insister sur l'aspect scientifique des données produites par les écologistes, qui ne sont pas des illuminés hors sol, comme on voudrait nous le faire croire.
C'est notre démarche initiale à la Técopole, l'atelier d'écologie politique, d'avoir formé un collectif qui est constitué de scientifiques et de membres de l'enseignement supérieur recherche, des chercheurs, des enseignants-chercheurs, des doctorants, pour justement intervenir, pareil, dans le débat public, dans l'interface science-société, depuis cette position-là, avec notre bagage qui est dans la manière de constituer des savoirs et de les mettre en discussion, de les mettre en critique même, mais voilà, depuis cet habitus universitaire de recherche qui est bien particulier. Et c'est vrai que dans cet ouvrage, il y a aussi l'intervention de quelques journalistes spécialisés, de quelques responsables associatifs, mais c'est assez minoritaire. Voilà, donc effectivement, nous, sur ce sujet en particulier, il nous semblait important justement de pouvoir avoir cette forme d'objectivation, ce qui est dit là, ça résulte d'analyses qui sont construites aussi depuis le milieu académique, qu'il ne s'agit pas d'une prise de parole d'activistes qui se défendent face à des attaques qui sont dures, mais d'analyses issues de sciences humaines et sociales, de sciences politiques, de sociologie, enfin de tout un tas de disciplines en fait, qui permettent de raccrocher ça à des mécanismes de fond qu'on est fondé à analyser depuis l'université et la recherche. Pour cet ouvrage-là, effectivement, on a eu d'emblée la stratégie et la volonté de privilégier pour l'essentiel des plumes issues de chercheurs et d'universitaires.
Les personnes et les groupes qui s'attaquent à l'écologie ont une longue expérience du dénigrement de la science. La stratégie du doute n'est pas nouvelle. Ce sont les mêmes tactiques qui ont été utilisées avant par l'industrie du tabac ou l'industrie de l'amiante. La science a souvent été une cible, mais aujourd'hui elle subit des attaques d'une ampleur inédite. Quand on entend les propos de J.D. Vance, le vice-président américain qui a dit « l'université est l'ennemi, le professeur est l'ennemi », on peut à juste titre s'inquiéter. Dans le livre « Green Backlash », c'est Valérie Masson-Delmotte, une des scientifiques du GIEC, qui documente l'obscurantisme technophile qui est en train de s'abattre sur les États-Unis et ailleurs, par ricochet. Plus la science apporte des preuves, plus elle est attaquée par celles et ceux qui les réfutent.
Mais en fait, dans l'ouvrage, cet anti-écologisme très fort aujourd'hui, qui est montant et qui se voit dans bien des domaines, il n'est pas tourné que contre la science. Il est tourné aussi contre certaines disciplines scientifiques. Et là, c'est très net, effectivement, de manière outrancière aux États-Unis avec le cas Trump qui attaque un certain nombre de savoirs disciplinaires, les savoirs de l'environnement et puis des savoirs en matière, par exemple, de justice sociale, les questions de genre, etc., qui sont des savoirs scientifiques constitués comme tout champ disciplinaire très important, qui les attaque pour des motifs purement idéologiques d'une manière qui est absolument ahurissante, qui passe à la fois par du dénigrement, par le fait de couper complètement les moyens, de licencier des gens, etc. Et c'est absolument dramatique ce qui se passe aux États-Unis, parce que là, on perd des pans entiers, à la fois d'organismes de recherche, de chercheurs en poste capables de travailler sur ces sujets. Donc, il y a effectivement cette partie-là du backlash, de l'anti-écologisme, qui est la plus caricaturale, peut-être, contre les savoirs scientifiques de l'écologie. Et c'est sûr que c'est dramatique. C'est dramatique parce que on est aujourd'hui, disons, dans une accélération des bouleversements écologiques, en tout cas dans leurs impacts, que maintenant tout le monde peut mesurer. Les scientifiques nous disent que ce soit par rapport à l'effondrement de la biodiversité, au changement climatique en cours, à d'autres champs de ce qu'on peut appeler aujourd'hui, c'est un des référentiels, il peut y en avoir d'autres, mais les limites planétaires en tout cas, des domaines du fonctionnement biogéophysique de notre planète et des écosystèmes locaux autour de nous, qu'on est en train de déséquilibrer à tel point qu'on franchit des seuils d'irréversibilité. Et peut-être on va déclencher des seuils de bascule, des tipping points, où les conséquences en fait risquent potentiellement de s'emballer dans certains domaines. Donc c'est ça qui est extrêmement grave. Je pense que il y a un niveau de compréhension de la gravité des choses, de l'étau dans lequel on est pris entre le fait qu'il faudrait pouvoir réagir fortement et rapidement pour déverrouiller un certain nombre de nos fonctionnements qui nous maintiennent dans une trajectoire insoutenable, que bien des gens ne réalisent quand même pas pleinement. Et c'est pour ça que l'alerte scientifique, les discours scientifiques sont encore nécessaires. Alors du coup, pourquoi ces attaques contre la science ? Donc en effet, il y a des attaques contre les sciences qui documentent la situation écologique ou l'anthropocène, si on veut employer ce terme-là. Mais dans l'ouvrage, il y a bien d'autres choses. C'est pas que la science, hein, en fait. C'est aussi des formes de dispositifs sociaux, de régulation, par exemple, de l'environnement qui sont attaqués. Il y a des juristes qui font un chapitre très intéressant sur les attaques par rapport au droit environnemental, qui est peu à peu vidé de sa substance. Ça passe assez inaperçu parce que c'est quelque chose d'assez spécialisé, mais les conséquences vont être très très fortes et c'est fait assez sciemment. Enfin, aujourd'hui, voilà, il y a une espèce de logique comme ça à amoindrir ces régulations, à les vider de leur capacité vraiment d'action pour laisser partir les choses à volo, et c'est extrêmement dommageable. Et puis dans l'ouvrage, il y a aussi des attaques qui sont en matière de discours, des sortes de stéréotypes anti-écologistes. On ne sait pas trop d'où ils viennent. Enfin, en tout cas, ils circulent. Et puis, à force d'être répétés par certains médias, par certains acteurs sociaux, des présentateurs, des figures en vue, des pseudo-intellectuels médiatiques, etc., c'est comme si, ils commencent à s'imposer, alors même que si on prend la peine de les déconstruire, ils sont extrêmement fallacieux et surtout, ils masquent des volontés de nous écarter d'une claire compréhension de ces enjeux. Donc, il y a pas que la question des savoirs scientifiques. Oh,
petite blanc dans du poil sous les bras.
L'Hortelière nous parlait il y a un instant des limites planétaires. Et on vient justement d'en franchir une nouvelle il y a peu, la 7e sur les 9 identifiées, celle de l'acidification des océans. La réduction du pH des mers et des océans, à cause des émissions de gaz à effet de serre, réduit leur capacité à absorber le CO2. Alors au cas où vous ne voyez pas le problème, et ben, plus il y a de CO2 dans l'air, et ben, plus on va avoir du mal à respirer. Voilà. Alors les autres limites telles que définies par un groupe d'experts depuis 2009 sont le changement climatique, la chute de la biodiversité, le changement de l'usage des sols avec la bétonisation par exemple, la perturbation des cycles de l'azote et du phosphore, de celui de l'eau douce aussi, l'appauvrissement de la couche d'ozone de plus en plus trouée, l'augmentation de la quantité d'aérosols dans l'atmosphère et la pollution de la biosphère. Et donc, malgré toutes les connaissances, le droit recule par endroits. Les maigres avancées sont anéanties à coups de sigles obscurs, par exemple RIIPM, raison impérative d'intérêt majeur, et autres PINM, projet d'intérêt national majeur. Les gouvernements créent des outils de contournement de règles de droit qu'ils ont eux-mêmes mis en place, mais qu'ils n'assument pas ouvertement de piétiner. Mais pourquoi ? Pourquoi certains veulent-ils à ce point la peau de l'écologie ?
C'est sûr que ce qu'on essaye in fine de comprendre, en tout cas on propose un cadre d'interprétation de la raison pourquoi il y a ces mécanismes. Et là, effectivement, ça renvoie à des causes profondes, structurantes, qui tiennent à plusieurs choses. Donc c'est sûr que ces attaques anti-écologiques aujourd'hui, que ce soit dans l'ordre du discours ou dans l'ordre des faits, des mesures qui sont prises ou au contraire des mesures qui sont amoindries, détricotées, etc., vidées de leur substance, il y a selon nous à la fois la défense d'un certain nombre d'intérêts très crispés sur la défense du fonctionnement qui pour eux, leur importe et les sert. Il y a par exemple un chapitre sur l'agro-industrie. Hein. C'est un des sujets les plus importants parce que l'agriculture est une activité essentielle. La condition sociale d'une bonne partie des agriculteurs aujourd'hui est très compliquée, en fait, pour pas dire que certains d'entre eux sont pris à la gorge. Donc, il y a vraiment une nécessité, sans doute, de refonder notre rapport à l'agriculture et la manière dont les professions de l'agriculture peuvent être sécurisées dans les missions qu'elles remplissent dans cette société, etc. Mais on voit que le débat est largement instrumentalisé vers une espèce de bouquet émissaire de l'écologie, des régulations environnementales qui seraient la cause de ces problèmes et de cette souffrance. Et là, par contre, derrière, si on regarde, il y a des intérêts hein, qui sont ceux plutôt de ceux qui s'en sortent le mieux avec des pratiques agricoles, d'agriculture agro-industrielle, de lobby agricole puissant, particulièrement en France, hein, et c'est attesté par plusieurs des analyses de l'ouvrage. Donc, c'est un exemple, hein, mais voilà. Et puis, on essaye de réfléchir au fait qu'il y a sans doute derrière des causes encore plus structurelles. On ne peut pas réduire ça non plus à des lobbies ou des personnalités qui attaqueraient l'écologie. Oui, c'est vrai, mais derrière, il y a des mécanismes plus profonds qui sont ceux, selon nous, de l'évolution de notre monde global, des recompositions du capitalisme, si on veut employer ce mot, hein, c'est-à-dire de la circulation aujourd'hui de la finance, des structures de pouvoir attachées à l'économie, des macro-acteurs du monde économique, des reconfigurations qui font à la fois évoluer les dynamiques économiques, notamment vers l'Asie, portées par des gouvernements qui sont pas forcément démocratiques, avec une vague réactionnaire et illibérale qui marque jusqu'aux démocraties les plus anciennes, de manière extrêmement brutale. C'est-à-dire que, bon, en Europe, on a vu monter le phénomène Orban, par exemple. Ben, on se retrouve aujourd'hui face à une fragilité, en fait, de ces régimes démocratiques qu'on croyait bien installés. Parce que derrière, il y a des forces idéologiques puissantes, il y a une reconfiguration des systèmes de référence qui favorisent, en fait, ces attaques. Et l'écologie est un des domaines attaqués. Mais il y a aussi justement les normes démocratiques et les pratiques démocratiques qui fondent l'état de droit. Il y a aussi les questions des rapports hommes-femmes et de l'émancipation des femmes et des questions de genre et puis des droits des minorités, que ce soit certaines minorités de populations autochtones ou bien des minorités sexuelles ou etc. Et dans ce domaine-là, l'écologie est aussi un des domaines. Pourquoi l'écologie ? Ben parce que l'écologie, en fait, si on veut sérieusement faire face à ce qui est en train d'arriver, que nous, à la Técopole, on n'hésite pas à appeler une catastrophe en cours, hein, qui se produit peu à peu, mais qui nous entraîne vers quelque chose où la vie des sociétés humaines sera beaucoup plus difficile. Si on veut sérieusement y faire face, pour continuer à pouvoir imaginer une vie bonne pour tout le monde, il faut changer vraiment beaucoup de choses dans notre fonctionnement social. Mais vraiment, il faut remettre beaucoup de choses à plat pour que ces changements puissent opérer, qu'on puisse les réaliser avec le maximum de justice et que ce soit aussi pour construire quelque chose de désirable, peut-être une société finalement plus juste parce qu'elle accepterait un certain nombre de limites et de fonctionnement différent. Voilà. Et donc ça heurte puissamment certains intérêts, certaines à la fois personnes, lobbies, secteurs qui défendent corps et âme leur vision du monde.
C'est intéressant comme les notions de justice et de désir reviennent dans les propos de l'Hortelière. La base même de l'écologie, c'est de désirer un monde plus juste pour tous les êtres vivants. Et c'est peut-être pour ça, dans le fond, que l'écologie fait si peur. Si vous laissez les peuples désirer un monde meilleur, bah c'est très dangereux pour un pouvoir en place. C'est bien pour ça que les puissants sont si friands de nouvelles technologies de contrôle. Contrôle de nos corps, bien sûr, mais aussi de nos désirs. Le déferlement de l'intelligence artificielle démultiplie d'ailleurs ses possibilités de contrôle, tout en servant les visions les plus réactionnaires. Alors où est la poule? Où est l'œuf? Est-ce que le saccage de la planète, les destructions, tout cela reflète un manque de démocratie qui engendre les dérives du pouvoir en place? Faut-il de la démocratie pour un monde vivable ou faut-il un monde vivable pour retrouver un peu de démocratie? Dans Green Backlash, la question est posée de l'urgence démocratique. Urgence, oui, pour éviter la catastrophe. Et oui, les écolos sont des catastrophistes. Mais c'est OK, nous pouvons assumer d'être catastrophistes. D'abord parce qu'il y a vraiment péril en la demeure. Et ensuite parce que, comme l'explique très bien dans le livre Lux et Mal, catastrophisme n'est pas défaitisme ni fatalisme. Au contraire, l'écologie, c'est une réponse, une solution même antifasciste.
Mais en fait, bon, le terme catastrophe, il est à la fois, voilà, on se prive pas de l'utiliser parce que quel terme pour dire l'ampleur de ce à quoi on fait face, la gravité de ce qui se profile. Donc, voilà. Mais en même temps, le terme catastrophe, il est un peu trompeur parce qu'il ouvre un imaginaire de comme s'il y avait un moment où la catastrophe va se produire. C'est quelque chose de complètement processuel. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est pas qu'il va y avoir un grand moment de la catastrophe. Des fois, on a l'impression que si on est lucide sur ce qui nous advient et ce qui risque de nous advenir, alors ça devrait démotiver et donc peut-être il faudrait pas aller jusque là. Non. Moi je considère que la lucidité c'est peut-être la chose qui m'importe le plus dans ma démarche intellectuelle personnelle, mais aussi professionnelle. Finalement c'est ça, c'est comprendre le monde, mettre en mots, mettre en analyse ce qui nous arrive. Alors, moi, mon domaine, c'est l'histoire, mais je crois que c'est vrai un peu pour tous les scientifiques. Et c'est vrai aussi, je dirais, d'une manière existentielle, quoi. Moi, j'ai envie d'abord de comprendre au plus juste ce qui nous arrive, que ce soit bon ou mauvais, positif ou négatif, etc. Après, on fait avec. On fait avec chacun d'entre nous et on fait avec collectivement. Et puis, par rapport à l'écologie, il s'agit pas de se dire, ah bon, mais alors, voilà, c'est très grave, peut-être même la situation est catastrophique. Bon, alors quoi? J'arrête de réfléchir à ça, mais c'est complètement le contraire. C'est-à-dire qu'on est dans un combat, dans un engagement qui doit être d'autant plus fort qu'on fait ce constat. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus rien à gagner, au contraire. Ben, tout est à gagner, en ce sens qu'il faut empêcher que ce soit pire. Comme disent les climatologues, le moindre dixième de degré compte. Il ne s'agit pas de dire « Ah, on va bientôt franchir les 1,5 degrés dont l'accord de Paris nous avait dit qu'il fallait essayer de ne pas les dépasser ». Bon, ben, ce n'est pas grave. Si on arrive à 1,6 degré, c'est mieux que si on arrive à 2,3 degrés de réchauffement global, parce que les conséquences sont extrêmement différentes. Donc en fait, une fois qu'on a fait acte de lucidité, ça ne devrait pas empêcher l'engagement, et comme tu le dis, l'engagement bah, dans une forme éventuellement de joie, de vie, de créativité. Enfin, moi, je ne sais pas. Ce truc-là revient très souvent sur le débat, et j'avoue que ça me déroute, parce que individuellement, on sait que notre existence, elle va très mal se terminer, à la fin, on meurt. Donc, de toute façon, ça, on le sait, c'est sûr. Ça ne nous empêche pas toute notre vie et jusqu'au bout d'essayer d'être joyeux, d'inventer des choses, de faire la fête, de faire des enfants, de vivre des trucs, d'aimer. Bon, voilà. Donc, je dirais que face à l'enjeu écologique, face à toute situation qui est angoissante, qui est dure, ben, on peut avoir les mêmes réactions. C'est-à-dire, oui, il y a ça, mais on essaye de construire à partir de ça quelque chose qui soit au contraire vivifiant, enthousiasmant, parce qu'il y a un combat à mener, il y a des valeurs, il y a une forme d'idéalisme, et surtout, il y a du collectif. Enfin, nous, à la Técopole, par rapport justement au fait de mariner tout le temps, parce que c'est les questions dont on s'occupe, ces questions qui sont un peu anxiogènes, comme on dit, voilà, et ben c'est parce qu'on a fondé un collectif, qu'on échange sans cesse, qu'on a l'impression de mieux traverser tout ça. Et nous, on est des scientifiques, on a ce collectif scientifique, mais des collectifs, il y en a de plein de sortes. Il y a des associations, il y a des groupes de quartier, il y a des associations de parents d'élèves qui peuvent se saisir de cet enjeu et d'autres. Enfin, voilà, les collectifs, ils s'inventent au quotidien. Des groupes d'amis. Mais en plus, nous, on ne dit pas que le backlash recouvre tout aujourd'hui. On dit qu'il y a des forces de backlash très présentes et qui ont des effets dans beaucoup de domaines qu'il faut apprendre à bien voir pour et justement essayer de pouvoir lutter contre, qui sont en train aussi d'essayer de reconditionner nos discours sur la compréhension de l'enjeu écologique. Et il faut être capable de pouvoir mettre ça à distance et au contraire essayer de les contrecarrer. Mais après, on ne dit pas du tout que toute la société serait dans une forme de green backlash. Bien au contraire, parce qu'en fait, quand il y a des études ou des sondages, ça montre plutôt que, en France en tout cas, il y a beaucoup de gens, la majorité des gens qui ont conscience de l'enjeu, en tout cas qu'il y a un problème, qu'il faudrait traiter ces questions, qui disent même être prêts à des changements ou tout ça, à condition que ce soit juste, bien pensé, cohérent, mais en tout cas, qui sont complètement prêts à prendre au sérieux cette question. Donc là, le livre est plutôt sur les forces à l'œuvre pour maltraiter cette question. We'll be right back.
petite blanc dans du poil sous les bras.
Tout est à gagner, nous dit l'hortelière. Ne pensez pas les écolos tristounés ou grincheux. C'est tout le contraire. Et c'est peut-être un des messages forts à faire passer à celles et ceux qui l'ignorent. L'écologie est joyeuse. Si vous n'avez jamais tenté de lutter pour le vivant, essayez, vous verrez, ça aide à vivre. On peut bien sûr se dire que, depuis Le printemps silencieux, le fameux livre de Rachel Carson qui alertait dans les années 60 sur les dangers des pesticides, rien n'a beaucoup changé et qu'on continue de détruire le vivant. Ok, mais on peut aussi voir le verre à moitié plein et réaliser la prise de conscience.
Bah oui, oui, nous, à l'échelle du bouquin, enfin, on est souvent dans une réflexion qui retire les choses sur cette échelle de plus de 50 ans maintenant, depuis le début des années 70, parce que effectivement, il y a beaucoup de choses qui s'enracinent dans ce moment-là. Enfin, c'est un moment de cristallisation des enjeux environnementaux et des discours écologiques. Finalement, tel qu'on les conçoit aujourd'hui, c'est-à-dire la notion même d'environnement se construit à ce moment-là. Ça ne veut pas dire qu'avant il n'y avait pas la prise en compte d'enjeux environnementaux ou qu'il n'y a pas eu beaucoup plus précocement dans l'histoire des combats même par rapport à des situations environnementales, la nécessité de protéger ceci ou cela, ou des conflits autour des usages de l'environnement. Bon, les historiens ont beaucoup travaillé là-dessus, et au contraire, on peut montrer, puis c'est une histoire qu'on peut faire dans plein de sociétés de civilisations différentes, avec des points de vue situés, des réalités différentes, mais malgré tout, en tout cas, il faut retenir l'idée que toute société a une certaine vision de son environnement, même si elle le nomme pas comme ça, et produit des formes de mobilisation autour de cet environnement, et que ça n'a pas attendu les années 70 pour exister. Par contre, il y a, c'est sûr, une sorte de cristallisation, comme je disais, qui opère à ce moment-là, voilà, autour de l'environnement comme une notion globale, autour d'une conscience que il y a des problématiques à l'échelle planétaire, il y a des publications un peu phares, comme le rapport Meadows ou d'autres, qui sortent à ce moment-là. Donc, il y a une manière de publiciser l'enjeu qui pose un certain nombre de cadres du débat qu'on peut retrouver jusqu'à aujourd'hui, même si par ailleurs, bien des choses ont évolué, que par exemple, l'enjeu climatique n'était pas du tout présent de la même manière. Pour les spécialistes, il était déjà sur la table, y compris, comme l'ont montré certains historiens, comme Christophe Bonneuil, Jean-Baptiste Frézos, il était aussi présent au sein des groupes dirigeants, par exemple, des compagnies pétrolières. Mais évidemment, sur la scène publique, c'était pas tout à fait pareil. Voilà. Alors, pourquoi, alors que dès cette époque-là, très précocement, a été formulé assez clairement par des analystes, des activistes, et puis des gens qui se mobilisaient aussi pour essayer d'apporter des solutions concrètes, comme ceux qui ont créé l'agriculture biologique, par exemple, qui étaient à la fois des paysans mobilisés, certains agronomes, des consommateurs qui avaient envie de produits sains et puis de s'articuler au monde paysan. Enfin bon, il y a tous ces cheminements-là dès cette époque-là, et donc pourquoi ces alertes n'ont pas été entendues? Ben là, pour le coup, ça rejoint les questionnements de fond qu'on a dans le bouquin, parce qu'en fait, on n'est pas que dans un monde où il faudrait dire l'enjeu écologique. Il y a aussi plein de mécanismes qui le contrecarrent et qui font tout pour maintenir le business as usual, les trajectoires sur lesquelles on est, pour qu'il n'y ait pas de changement vraiment transformatif qui s'opère.
Et oui, les forces à l'œuvre pour ne rien changer sont puissantes. Il n'est qu'à voir le nombre de lobbyistes embauchés par la société Bayer, 22 salariés à plein temps, 22 personnes qui n'ont manifestement pas bifurqué vers l'écologie. Et en plus de ce travail direct de lobbying, Bayer adhère à une vingtaine d'associations de lobbyistes et à d'autres groupes de pression. Le combat est inégal. Les moyens développés par les industries polluantes sont 15-20 fois supérieurs à ceux des associations qui essaient de protéger le vivant et agissent pour le bien commun et non pas pour le profit de quelques actionnaires. Rien de nouveau sous le soleil, le capitalisme vorace est à l'œuvre, et c'est comme ça dans toute l'histoire de l'environnement. Ou l'histoire environnementale d'ailleurs, je ne suis pas sûre de faire la différence entre les deux.
Ben en fait, y a l'histoire de l'environnement, qui est une manière de voir comment les environnements ont pu évoluer dans l'histoire, dans le temps. Mais il y a surtout l'histoire environnementale, en fait, qui est une histoire qui s'intéresse à tout un tas d'objets sous l'angle environnemental. Et là, ça peut être beaucoup plus large, en fait. Parce que bah, ça peut être les représentations de l'environnement, les cultures autour de l'environnement, les lois et les régulations de l'environnement, la manière dont la politique se saisit de l'environnement, etc. etc. En fait, voilà, y a beaucoup de questionnements. Et effectivement, cette histoire-là, en gros, de manière simplifiée, on va dire qu'elle remonte aux années 70. Ça ne veut pas dire qu'avant, il y avait personne qui s'intéressait à des objets d'histoire environnementale. Il y avait des pionniers, des pionnières, des gens qui travaillaient déjà sur certains sujets, les forêts, l'eau, etc. Mais vraiment, comme champ académique, c'est à partir des années 70, avec un démarrage assez fort aux États-Unis sur les campus américains, que ça va se constituer comme un champ du savoir parmi les savoirs historiens. Et c'est intéressant de dire que sur ces campus américains d'abord, au début des années 70, c'est dans une intrication pour certains historiens entre une nouvelle curiosité dans leur recherche historique autour des enjeux environnementaux et la question écologique qui se posait déjà à cette époque-là et qui fait que certains d'entre eux étaient impliqués pour dire que, bah oui, il y avait un problème, qu'il fallait que les sociétés pensent différemment dans le présent leur rapport à l'environnement. Voilà. Quelques-uns des grands noms de l'histoire environnementale, des pionniers de l'histoire environnementale à cette époque, étaient aussi des activistes de l'écologie. Et visiblement, bah, ça continue aujourd'hui. Mais voilà. Et juste, j'ajoute le fait que aujourd'hui, l'histoire environnementale, en fait, elle est en pleine expansion. Il y a plein de chercheurs qui travaillent sur ces enjeux-là, soit en se spécialisant vraiment là-dedans, soit en intégrant ce questionnement-là à leurs recherches, qui peuvent être des recherches dans des domaines classiques de l'histoire sociale, de l'histoire culturelle, de l'histoire politique, mais où ils introduisent le questionnement environnemental et ça renouvelle en fait les différents champs de l'histoire. C'est une logique transformative comme l'est par exemple la question du genre, quand la question du genre, hein, d'abord la question de faire une place aux femmes dans l'histoire, puis aborder les questions, les enjeux historiques sous l'angle des problématiques de genre, voilà, ça s'est glissé un peu partout dans les champs historiques et l'environnement c'est pareil.
La pensée écologique s'est infiltrée dans tous les champs de recherche. Et c'est tant mieux, tout est lié. On ne peut pas dissocier la question écologique de la question de la santé, des inégalités sociales, de l'économie, de l'éducation. Si on veut penser l'écologie, on ne peut pas le faire seul. Il faut pouvoir penser l'écologie à travers tous les champs scientifiques et avec tout le monde. Reste que l'écologie apparaît parfois un peu descendante, méprisante, comme étant urbaine, en rupture avec la ruralité. Alors est-ce que c'est une réalité ou est-ce que, là encore, c'est plutôt ce que certains médias ou politiques essaient de nous faire croire ?
Mais il y a plusieurs choses dans ta question et je commencerai par la première dimension qui est ce qui est nouveau à la Técopole et ce qui a été réussi. D'emblée, en fait, il y a eu vraiment un rapprochement inattendu entre des champs très différents du savoir scientifique. Et à la première réunion, bah, on était quelques-uns ici de cette université, géographes, historiens, mais il y avait aussi un physicien de l'INSA, un astronome, enfin voilà, alors qu'on se connaissait ni d'Ève ni d'Adam. Mais on s'est réunis sur cette volonté de réfléchir ensemble et de trouver des nouveaux moyens d'agir depuis nos métiers, nos professions et avec ce qu'on pouvait apporter en propre. Voilà, pour nous, c'est quelque chose de très important et qui a été très fructueux et qui continue à l'être. Après, la deuxième partie de ta question sur cette enjeu de dire, bah, voilà, la problématique écologique, elle touche tout le monde aujourd'hui, mais il y en a qui peuvent avoir l'impression que les discours construits à propos sont parisiens ou de bobos ou d'intello ou de citadins, etc. et ne correspondent pas à leur réalité. Alors sur ça, il y a plusieurs choses. Il y a une partie de ces visions qui sont vraiment des constructions publicisé par des médias, par des discours qui visent à dénigrer l'écologie. C'est vraiment, et ça a très bien été démontré, hein. Même le terme bobo, par exemple, on voit bien si on fait des études précises, qu'il apparaît dans le débat social porté par certains partis politiques ou leaders politiques pour en dénigrer d'autres au moment des élections. Enfin, voilà. Et aujourd'hui, les woke, c'est exactement pareil. Donc, il y a une partie de ces visions qu'il faudrait vraiment tenter de démonter parce qu'elles sont profondément fausses et avec une stratégie d'épouvantail. Mais après, il y a par contre des choses qui sont importantes là-dedans Et aujourd'hui, c'est un enjeu réel que les discours sur la transition écologique, si on veut appeler, enfin prendre ce terme-là, soient construits aussi depuis des réalités sociales de terrain, incarnées avec des réalités sociales fortes en termes de contraintes économiques, secteurs d'activité menacés ou transformés potentiellement par des politiques de transition, avec une vision, on l'a souvent dit, mais par exemple la problématique de la mobilité et des transformations des mobilités ou de l'électrification du parc automobile se pose pas du tout de la même manière dans des villes, des agglomérations, du périurbain ou dans des campagnes plus isolées. Donc tout ça, c'est en effet extrêmement important. Donc je pense qu'il faut vraiment avoir les deux visions. Certains discours de ce type, il ne faut pas les accepter parce que c'est vraiment des formes de mensonges ou de désinformations qui sont fabriquées pour qu'on ne comprenne plus les enjeux et pour créer des clivages complètement dommages en fait, au service de certains intérêts qui se masquent derrière. Et par ailleurs, oui, disons, les questionnements autour de comment on pourrait faire face à la question écologique, comment on pourrait opérer une transition écologique, qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre et tout, doivent être construits en faisant beaucoup plus de place aux citoyens dans leur diversité, aux citoyennes, aux secteurs d'activité, aux... voilà.
L'écologie doit faire une place à chacun et à chacune, et l'hortelière a raison de pointer la nécessité de faire dans la nuance. On ne peut pas dire que l'écologie est punitive, c'est même l'inverse, elle ne l'est probablement pas assez à mon sens. Pour autant, il faut comprendre pourquoi. Dire qu'il faudrait par exemple moins de voitures, ça peut paraître pour certains liberticide, moraliste, injuste. Tout le monde n'a pas les moyens de renoncer à certains conforts. Et l'écologie doit toujours être pensée pour accompagner les plus vulnérables. L'écologie ne doit pas paraître normative, culpabilisante ou déconnectée, alors même qu'elle est une puissance mobilisatrice. Mais les débats sont sclérosés et tout est la faute aux écolos, c'est le grand n'importe quoi.
Ça, c'est un des trucs les plus dommageables aujourd'hui, c'est qu'on est quand même dans une société où la construction du débat public se dégrade. Je pense pas qu'elle ait jamais été parfaite, mais en tout cas, elle devient très mauvaise. C'est-à-dire qu'il y a quand même de puissants acteurs médiatiques, des figures de proue. Il y a le phénomène aussi des réseaux sociaux dans une certaine négativité qu'il a installée, qui construit des logiques de clash, de buzz sur des enfin, il y a tout un tas de choses, de mécanismes et d'acteurs cyniques ou d'acteurs hyper idéologiques. Hein. Bon, voilà, la sphère Bolloré, ces gens qui ont une vision très réactionnaire de la société et qui en profitent pour noyer le débat social sous des tombereaux à la fois de conneries, d'insultes. Et ça, c'est compliqué. Ça rend compliqué le fait de réfléchir sereinement sur des enjeux forts. Même si on a des visions différentes, parce que c'est logique, dans une société, il y a des visions différentes, des intérêts différents, des compréhensions différentes, mais on peut se dire qu'avec un débat public de qualité, il y a des choses qui pourraient converger. Ou en tout cas, on pourrait essayer de trouver des solutions, voilà, les meilleures solutions possibles, alors qu'il y a des enjeux différents, bon, ou des visions différentes. Mais pour l'instant, c'est difficile, c'est vraiment difficile. Y compris, effectivement, et là on retombe à ta toute première question, même la parole des scientifiques devient dénigrée comme si c'était une parole d'opinion comme une autre. Or, les scientifiques sont pas là pour surplomber la société avec leur savoir, non. Mais leur savoir, ils sont importants pour qu'ensuite, en les amenant dans le débat, le débat puisse avoir lieu avec quelques informations bien construite. Et ensuite, le débat, il a lieu. Et là, les scientifiques sont un des acteurs du débat parmi les autres. Ça, c'est vraiment notre vision à la Técopole, quoi. Pour bien différencier le fait que, oui, les scientifiques ont quelque chose en propre à amener, et ça devrait être respecté, parce que c'est important. Mais après, ils ne sont qu'un des maillons du débat. Et le débat doit avoir lieu, et là, il est complexe, il est polémique, c'est normal.
Oui au débat, trois fois oui, mais non à celles et ceux qui mélangent science et croyances, qui instillent le doute partout, ou qui utilisent de soi-disant consensus scientifique pour, je cite, « imposer une vérité unique et disqualifier toute contestation ». C'est ce que font les régimes politiques autoritaires. Et on voit bien La pente glissante sur laquelle on se trouve en France avec un gouvernement qui réprime de plus en plus toute contestation des écologistes qui sont accusés par Macron lui-même d'être contre le progrès, d'être des amiches. Et là, on aurait besoin d'une heure de plus pour savoir ce qu'est le progrès. On n'arrête pas le progrès, me dites-vous. Eh ben si, en fait, le progrès, ce n'est pas un processus linéaire. C'est quelque chose d'ambivalent, de pluriel et arrêté parfois. Alors après, est-ce que par progrès, Macron entend, lui, le technosolutionnisme ? En attendant, Macron participe, comme d'autres, à disqualifier les savoirs, empêchant ainsi qu'ils deviennent des leviers d'émancipation. Aujourd'hui, les conditions de vie sur Terre sont menacées et il faudrait un projet politique à la hauteur. Et à la place, on a quoi ? On a des propositions, comme la loi Duplon et ses structures d'élevage, ses méga-bassines, ses réglementations phytosanitaires revues à la baisse. Donc sous couvert de progrès, on marche à reculons de l'histoire. Et sans transition, j'ai envie de vous dire, et les poils dans tout ça ?
Bon, la question du poil... Personnellement, moi, ça me renvoie à mes cheveux, donc j'ai toujours eu une chevelure assez abondante et assez, pas trop peignée, quoi. En fait, qui a sa propre vie. Et bon, c'est un rapport broussailleux à mes poils, quoi. Voilà, mes cheveux sont là et ils sont pas très maîtrisés, en fait. Donc ça me constitue en partie.
J'aime bien cette idée de ne pas maîtriser ses cheveux. Vive le désordre, qu'il soit capillaire ou autre. J'espère que cette émission vous aura donné l'envie, si ce n'est de bifurquer, en tout cas de faire attention aux discours attaquant l'écologie et les écolos. Discours souvent mensongers, fabriqués pour servir des intérêts bien loin de l'intérêt général. Prudence donc, car comme le dit Andreas Malm, cité dans Green Backlash, pire que la catastrophe climatique, c'est la catastrophe climatique et... le fascisme. Alors face au danger, à la barbarie, soyons audacieux, soyons créatifs, soyons ensemble surtout. C'est ça l'écologie, c'est être ensemble pour proposer une alternative au capitalisme et ainsi peut-être construire une société durable. C'est tout ce que je nous souhaite et c'est déjà pas mal. Allez, du poil sous les bras, c'est fini pour aujourd'hui mais on se retrouve très vite sur les ondes FM. Et d'ici là, toutes les émissions sont à écouter ou à télécharger en ligne. Et n'oubliez pas de soutenir vos radios associatives locales qui ont la vie dure en ce moment particulièrement, comme la plupart des associations.